Donc je tiens à remercier M. Conry et Michel Dupont pour cette invitation à venir parler devant des internistes pour un travailleur manuel comme moi qui suis orthopédiste. Et pour vous parler des vagues qui sont l'une des attractions importantes de la région Aquitaine. Ces petites vagues fort sympathiques cachent parfois dans le sable ce que l'on appelle les baïnes, qui sont des retenues d'eau avec du sable un peu mouvant autour et dans lesquelles il ne faut pas se baigner. Il y a des alertes tout au long de la côte aquitaine, depuis la pointe de Souillac jusqu'au Pays Basque, pour dire qu'il ne faut pas se baigner dans ces petits lacs artificiels qui sont en avant de la montée des eaux, parce que lorsque ces lacs se libèrent dans l'océan, c'est une grande quantité d'eau qui part, et tous les ans on a à peu près une dizaine de noyés parce qu'il ne faut surtout pas se débattre contre le flux aquatique, et il faut se laisser porter. On se retrouve à 500 ou 600 mètres du rivage, et puis après eh bien, il faut revenir à la nage, bien sûr, il faut savoir nager. Mais il faut surtout pas lutter contre ces baïnes, sinon à chaque fois les gens se noient par épuisement. Alors c'est la raison pour laquelle dans la région, la plupart des cités balnéaires ont leur population qui est multipliée par 5 pendant l'été. C'est le plaisir de l'eau, c'est ces plages de sable fin qui parfois donc peuvent devenir un petit peu plus agitées avec l'apparition des vagues qui a entraîné le développement d'un certain nombre d'activités, en particulier le Lacano Pro qui fait partie du circuit mondial pour les surfistes et les activités de planche à voile, ainsi que maintenant les activités de kitesurf. Il faut savoir que le kitesurf a été inventé par un Français de la région d'ailleurs, qui maintenant, grâce à ses royalties, vit à Saint-Domingue. Comme quoi, ça peut mener à tout. Il a d'ailleurs modifié son brevet pour que ce soit un petit peu moins dangereux, parce qu'on a eu quelques kitesurfers qui ont fini sur le parking. Et donc, on a eu un paraplégique et 2 morts quand même, parce qu'ils font des bonds qui sont extrêmement élevés. Donc maintenant, le système de déverrouillage est très pratique, et donc dès que les gens voient qu'ils ne sont plus au-dessus de l'eau, eh bien ils déverrouillent leur kitesurf, ils tombent dans l'eau, puis la voile part plus loin. Voilà. Donc le Lacano Pro, ici ce ne sont pas des vagues de Lacano parce que j'étais pas là pour les filmer, donc j'en ai pris d'autres. Les endroits où les vagues sont les plus impressionnantes sont bien sûr Hawaï, ainsi que la côte australienne, et on voit que lorsque l'on n'est pas forcément un professionnel aguerri, eh bien les vagues peuvent entraîner un certain nombre de traumatismes. Alors il y a la vague qui entraîne le traumatisme, et puis il y a aussi la planche qui vous retombe dessus et qui entraîne des plaies, des bosses et autres petits ennuis. La plupart des lésions sont essentiellement articulaires au niveau de l'épaule. Il y en a peu au niveau du genou et il y en a quelques-unes au niveau du rachis dans ces vagues lorsque les surfistes sont en pleine mer. Alors il faut comprendre le mécanisme des vagues, puisque la plupart des accidents vont bien sûr survenir sur la plage. Et donc les vagues sont générées par le vent sur la mer, ce qui crée la houle. Et tant qu'on est en pleine mer, eh bien les vagues ne sont pas dangereuses pour peu que l'on sache nager. Et puis les vagues vont venir progressivement vers la côte, et en venant vers la côte, eh bien le fond de la mer, donc la plaque continentale, remonte, et le fait de cette remontée du sol va entraîner un ralentissement de la base de la houle, et par conséquent la partie supérieure de la houle va être plus rapide que la partie inférieure, ce qui va créer au final ce que l'on appelle le déferlement sur la côte. Donc le cycle des vagues est parfaitement connu, puisque maintenant on s'en sert pour faire de l'électricité, hein, puisqu'il suffit de capter cette onde qui est parfaitement caractérisée par sa hauteur, sa fréquence, et on peut ainsi créer de l'électricité à distance avec des espèces de bâches qui sont mises sur les vagues. Et lorsqu'on se rapproche de la côte, donc la partie supérieure ici va aller plus vite que la partie inférieure qui est freinée par le frottement avec le sol, et on va avoir ce que les gens appellent couramment le rouleau. Et donc c'est ce que les surfeurs vont utiliser à ce niveau-ci, puisque bien sûr le fun c'est de se mettre dans le rouleau pour pouvoir avoir une sensation de tunnel qui est, semble-t-il, très agréable de la vie des professionnels. Donc ce mécanisme est important à comprendre parce que lorsque le rouleau est à sa partie finale, donc juste en bord de côte, eh bien on voit que le ralentissement de la partie inférieure va entraîner une diminution de la quantité d'eau à ce niveau-là, alors que la quantité d'eau est plus élevée à la partie supérieure. Donc il y a deux problèmes qui vont se passer, c'est que si vous plongez, eh bien ici il y aura plus d'eau, donc vous allez plonger dans une eau peu profonde et vous allez faire des traumatismes à ce niveau-là. Et puis si vous plongez dans la vague à ce niveau-là, juste avant qu'elle retombe, eh bien vous allez vous prendre des kilos, des centaines de kilos de paquets de mer sur le rachis ou sur les bras s'ils sont en position d'abduction. Et c'est ça qui va entraîner les traumatismes. Donc l'idéal, bien sûr, c'est de faire du surf à distance de la côte. Et là, eh bien, comme vous êtes dans la masse liquide, eh bien, bon, à condition de savoir nager, vous risquez pas grand-chose. Vous finirez toujours par faire surface, d'autant plus que maintenant, la plupart des surfeurs nagent en combinaison comme celui-ci. Et donc les combinaisons flottent et ils arrivent toujours à remonter. Et il n'est plus recommandé de faire du surf avec le simple maillot de bain. Donc le danger, c'est l'approche de la côte, l'approche du rivage, parce que là, lorsque vous avez des gros rouleaux, eh bien, vous n'aurez pas moyen de vous protéger grâce au liquide, vous serez directement au contact du sol. Alors ça a deux inconvénients, d'abord parce que vous pouvez plonger directement dans le sable, et le deuxième inconvénient, c'est que vous vous tenez sur le sol, et donc vous avez un point d'appui, et ce point d'appui va aggraver les lésions, alors que quand vous êtes dans l'eau en pleine mer, il y a peu de risques, vous retournez avec la vague, et il n'y a pas de problème. Donc les situations à risque, c'est le plongeon dans le rouleau lorsqu'il est à son sommet, parce qu'il y a une absence de profondeur d'eau sous la base du rouleau, et donc vous n'aurez aucun amortissement dans l'élément liquide, vous aurez un choc direct dans le sable. Il y a le plongeon d'un surf lorsque le rouleau s'est effondré, parce que les gens finissent avec leurs planches pour arriver juste au bord de la plage, et puis juste parce qu'il fait chaud, ils vont plonger à ce moment-là, et si vous plongez au moment où la mer se retire, évidemment, vous allez plonger dans une eau peu profonde, et on a eu des exemples très gravissimes et malheureux dans la région. Et puis enfin, il y a le passage sous le rouleau avec un point fixe au sol, c'est-à-dire que vous êtes proche de la plage, et puis vous regardez la vague. Donc, ce qui est mauvais, c'est de plonger à cet endroit-là, parce que là, il n'y a plus d'eau à la base de la vague, et puis en plus, vous allez prendre toute l'eau qui est au-dessus sur votre tête, et si vous lésez le rachis, par exemple, en plongeant dans cette eau peu profonde, eh bien, vous allez avoir une aggravation avec l'eau qui va vous retomber dessus. Donc, lorsque vous êtes au bord de la mer et que vous avez un gros rouleau qui arrive, faut pas se mettre face au rouleau, mais faut se mettre face à la plage, puisque là, au moins, vous allez partir dans le bon sens et vous risquez pas de vous faire des luxations au niveau de l'épaule. Donc la luxation de l'épaule, eh bien, c'est l'une des deux pathologies les plus fréquentes, luxation antéro-interne de la scapulo-humérale. Le sujet est debout, pied au sol, bras en abduction, rotation externe, face à l'océan, donc il a l'impression d'être en sécurité, quoi, il touche par terre. Eh bien la chute de la masse liquide du rouleau, qui pèse parfois plusieurs centaines de kilos, voire une tonne, va lui retomber dessus avec le bras en abduction, rotation externe, et c'est idéal pour avoir une luxation. Alors il y a une thèse qui a été faite à l'été 2007 au centre d'Osségor et avec l'aide du SAMU de Bayonne, qui était un élément comparatif entre fallait-il envoyer le médecin directement sur la plage ou bien est-ce qu'on pouvait faire le diagnostic par les MNS et ensuite transporter le blessé. C'était donc le sujet de la thèse. Ça coûtait un petit peu cher parce que ceux qui étaient avec transport du SAMU, c'était par hélicoptère, donc vu que l'heure d'hélico, ça vaut 1 500 €, ça revenait un petit peu cher l'étude, mais bon. Il n'y a pas eu de lésions spécifiques liées aux vagues qui ont été retrouvées. Par contre, la perte d'autonomie entraîne un risque potentiel d'aggravation des lésions, parce que le patient est brassé dans les vagues à ce moment-là. Et il y a eu quelques luxations erecta qui sont relativement rares dans la littérature et publiées, j'en ai retrouvé qu'une dans PubMed, une seule luxation erecta dans les rouleaux publiés. Et en fait, il y en a un petit peu plus souvent, mais c'est pas beaucoup plus fréquent que dans d'autres sports violents. Par contre, la noyade est possible lorsque la luxation survient et que le patient ne sait pas nager. Donc les luxations sont tout à fait classiques, elles sont le plus souvent donc antéro-internes. La population est masculine à 95%, la moyenne d'âge c'est 24 ans. Le diagnostic, donc tous ceux qui ont été repêchés dans cette étude étaient sur des plages surveillées. Donc il a été fait sur la plage parce que les maîtres nageurs les ont récupérés très rapidement. La recherche de signes de complications, en particulier de fracture de l'humérus, a été faite sur place avec des petits signes cliniques en maintenant l'extrémité supérieure du bras et en manipulant le coude. La réduction a été faite immédiatement, sans autre précaution que parfois une injection d'anti-inflammatoire dans les fesses. Et la radiographie de contrôle a été demandée pour les 24 heures qui suivaient. Mais il n'y a pas eu de particularité des luxations survenues au niveau des vagues. Voici ici un des exemples avec une arthroscopie qui avait été faite pour un patient pour une suspicion de lésion ligamentaire associée où on voit la fracture de la tête humérale avec la glène qui est située en bas de l'image ici, le long biceps qui est là et la fracture de la tête humérale qui est donc l'encoche de Hill-Sachs qui survient dans les luxations. Il y a eu quelques fractures du trochytère associées qui n'avaient pas été diagnostiquées. Les fractures de l'humérus a été diagnostiquée, mais pas celle du trochytère. Ceci dit, ça ne contre-indique pas la réduction sur place. Il n'y avait pas eu de lésions neurologiques retrouvées dans cette étude. Donc, ces lésions sont de l'ordre de 10% dans la littérature et la plupart du temps par simple étirement et récupèrent dans un délai de 6 mois. La seule précaution à prendre, c'est de faire de l'électrostimulation du deltoïde immédiatement. Donc, vous voyez que les fréquences par rapport aux autres sports sont à peu près équivalentes. Et pour le traitement, bien, le traitement des récidives, s'il n'y a pas de fracture au niveau de la glène, c'est la technique de Bancart sous arthroscopie, mais avec un taux d'échec de 10%. Ou bien on peut toujours utiliser la technique dite classique de PAT, qui est l'atarget modifié, hein, PAT étant un chirurgien français, ça n'a rien à voir avec une petite PAT, où le taux d'échec est inférieur à 2%, c'est la meilleure technique. Donc le Bancart classique, mais que maintenant on fait toujours sous arthroscopie pour éviter les pertes de rotation externe liées aux Bancart classiques. Et sous arthroscopie, vous voyez la réinsertion du bourrelet en bas à droite, ou bien la technique de PAT, donc qui est la transposition de la butée coracoïdienne sans couper le sous-scapulaire, qui donne d'excellents résultats. Deuxième type de lésion, les lésions du rachis cervical. Deux mécanismes, le plongeon dans les vagues lorsqu'elle est à son sommet, et la vague s'écrase sur le plongeur vers le sol dans un mouvement d'hyperflexion, et le plongeon dans une eau peu profonde, ce qui est la même chose que les plongeons dans les piscines quand il n'y a pas d'eau. Ce qui est quand même relativement fréquent dans la région. Et il faut savoir que plongeon dans piscine sans eau, dans 40% des cas, le taux d'alcoolémie est nettement supérieur à ce qui est légalement autorisé. Donc le type de lésion, les entorses cervicales simples, c'est le simple coup du lapin et on pense que la fréquence est très sous-estimée. Beaucoup de gens ont certainement ce type d'entorse dans les vagues et bon, ils prennent un peu d'antalgique et ils ne consultent personne. Jusqu'aux lésions majeures avec des luxations bilatérales ou unilatérales des articulaires, les burst fractures avec ou sans troubles neurologiques, qu'ils soient radiculaires ou médulaires. Alors en moyenne, eh bien ça se situe entre 15 à 20 par an sur la côte aquitaine, entre Soulac et Biarritz. Il y a 10% de paraplégie ou de tétraplégie complète, 40% de compression radiculaire ou de troubles incomplets qui vont récupérer après traitement chirurgical. Donc c'est vrai que les traumatismes, on comprend qu'ils puissent survenir et que l'important, lorsque ces traumatismes surviennent, ça sera de maintenir l'axe tête-cou-tronc dès que le sujet aura été repéré. Mais dans ces vagues qui sont très importantes, et là c'est la taille des vagues que l'on a sur la côte aquitaine, c'est des vagues qui font un maximum de 3 mètres, vous avez vu ici, l'important c'est sûr c'est de sauver le patient, mais souvent quand ils vont le chercher, il est transporté un peu dans des conditions un peu acrobatiques qui souvent aggravent les lésions. Or, il y a une technique simple pour éviter d'aggraver les lésions, c'est de fixer le patient sur sa planche de surf. Et avec une simple sangle, ça permet de maintenir l'axe tête-coutron. Donc les fractures sont, les lésions que l'on voit sont les mêmes que celles que l'on rencontre dans la traumatologie habituelle, dans la fracture en teardrop, avec ce petit fragment osseux qui est situé sur le... À ce niveau ici, c'est le bord antéro-inférieur de la vertèbre, la lésion discale ici et la dislocation au niveau des facettes en arrière. C'est une lésion tout à fait classique. Et le danger, c'est d'avoir cette radio aux urgences et de dire « Oh, ben, c'est une petite fracture parcellaire, vous inquiétez pas, on vous met une minerve et revenez me voir dans 3 semaines. » Sauf que maintenant qu'on a des IRM, on a fait des IRM systématiques et on voit toute la lésion qui est ici en arrière, la rupture complète du système ligamentaire, les muscles qui sont totalement œdémaciés, et ça signifie ça la gravité de la lésion. Donc si vous avez le moindre doute, eh bien plutôt que de faire des clichés dynamiques qui peuvent être dangereux, il vaut mieux demander une IRM qui permet de confirmer que c'est une lésion grave, et ça c'est systématiquement un traitement chirurgical. Donc quelques-uns sont passés à l'as, si on peut dire, et sont arrivés à un stade avec des lésions qui heureusement étaient débutantes sur le plan neurologique, mais peut-être il y en a d'autres qui sont étaient plus graves et qui ne sont pas arrivés jusque chez nous. Donc le mécanisme d'hyperflexion, on le comprend très bien, on plonge dans la vague, le sol est ici, Il n'y a plus d'eau parce que la vague est en train de se retirer, donc la partie inférieure est partie, et donc vous avez une hyperflexion au niveau du cou, et là vous pouvez aller donc en plus de la rupture du disque, comme dans le cas précédent, vous avez la rupture du disque et la luxation des articulaires en arrière, qui peut être unilatérale ou bilatérale. Et puis enfin, lorsque vous plongez, mais sans hyperflexion, eh bien vous avez à ce moment-là directement la burst fracture, l'éclatement du corps vertébral, si l'axe du cou n'était pas en flexion, mais en rectitude. Et là, on a aussi les troubles neurologiques par compression, avec recul du mur postérieur. Alors le pronostic de ces traumas cervicaux, il est lié à l'âge du blessé. Bien sûr, les sujets âgés vont avoir un canal cervical étroit associé qui va aggraver les lésions. La rapidité de secours et surtout la bonne tenue de ces secours en maintenant l'axe tête-coutron. Et donc, il faut faire un bilan lésionnel très précis et bien palper l'arrière du cou pour rechercher ces œdèmes des tissus mous qui signent la gravité. Et puis, il faut mettre les patients en traction immédiate. La traction la plus simple, c'est une main derrière la tête, une main sur le menton et on tire. Et ensuite, on met un étrier. Mais c'est du bon sens qui n'est pas toujours respecté, même parfois dans certains transports sanitaires. Et donc le maintien axe tête-coutron associé à la traction est très important. Il faut assurer la liberté des voies aériennes. Si le blessé est conscient, et bien sans troubles neuro, on le met en une minerve et en position latérale de sécurité. S'il est conscient avec des troubles neuro, c'est décubitus dorsal et traction immédiate. Et les blessés inconscients, toujours suspicion de troubles neuro, donc c'est minerve, geste de réanimation et traction et transport vers un centre hospitalier. Les traumatismes sont survenus dans 95% des cas chez des sujets masculins. Les sujets jeunes, ils ont essentiellement des lésions articulaires et disco-ligamentaires et peu de troubles neurologiques, essentiellement des troubles radiculaires, alors que le sujet âgé, la moyenne était de 47 ans, eh bien les lésions sont osseuses, surviennent souvent sur un canal cervical étroit et il y a donc là très souvent des troubles neurologiques, le syndrome de Schneider, donc syndrome central de la moelle, et puis des troubles médulaires et des troubles radiculaires associés. Ici, donc, vous voyez que ça a été favorisé par un bloc à ce niveau ici, et donc on a une luxation unilatérale des articulaires qui, après réduction par traction, le patient a totalement récupéré son syndrome radiculaire. Un teardrop ici avec une luxation associée, à cause d'une fracture des articulaires postérieurs. Là, le patient, bien sûr, était tétraplégique, mais incomplet. Il a récupéré partiellement. Le traitement est identique à ce que l'on fait dans la pathologie même dégénérative ou traumatique par ailleurs. On réaligne le rachis, on met un greffon à la place du disque et on met une plaque antérieure, ce qui permet de stabiliser totalement la colonne vertébrale. Dans les burst fractures, eh bien, la vertèbre étant explosée, on utilise un greffon pour remplacer le corps vertébral, souvent un segment de crête iliaque associé à une plaque qui permet de maintenir. Et le problème du sujet plus âgé qui a un canal cervical étroit, qui est la faveur d'un traumatisme parfois minime. Si un sujet jeune n'aurait pas de lésion, et bien le sujet âgé, lui, aura des troubles neurologiques. Et on ne les opère jamais en urgence parce que le syndrome de Schneider décompenserait encore plus quand il s'agit d'un syndrome de Schneider. On attend souvent un peu sous traction et on fait la corporectomie sur deux ou trois étages quelques jours ou semaines plus tard. Et la prévention, eh bien, lorsque l'on doit plonger, c'est toujours le premier plongeon de le faire les pieds en avant. Alors, et donc le meilleur traitement, c'est toujours la prévention, quel que soit le type de lésion. On fait des campagnes radiophoniques et télévision tous les ans pour ce type de traumatisme dans les vagues. Et il faudrait faire un affichage sur les plages, de la même manière qu'on a l'affichage pour les baïnes, ce n'est pas encore fait, et de préférence se baigner en zone surveillée. Je vous remercie.